Bien, je rappelle tout d'abord les prochains séminaires. Donc tout à l'heure, à 11h, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Rudolf Grimm de l'université de Heidelberg, qui va nous présenter les derniers résultats qu'il a obtenus à Heidelberg sur les Novel Dipole Force Atom Traps. La semaine prochaine, le 3 novembre, ce sera Pierre Sonnaché du laboratoire Kastler-Brossen qui nous parlera de RMN et IRM avec de l'hélium-3 polarisé, mesures physiques et perspectives d'application clinique en imagerie des poumons. Ça, ce sera vraiment un séminaire d'ouverture vers les applications médicales du pompage optique et de la résonance magnétique. Le 10 novembre, ce sera Martin Weiss du Max Planck de Garching qui nous parlera de Cold Atoms in Periodic Light Fields, New Methods in Atom Optics. Et je dois faire un certain nombre de voyages à l'étranger la semaine suivante, et donc je suis obligé d'arrêter le cours et le séminaire le 17 novembre, ils reprendront bien sûr le 24 novembre. Et je donnerai la semaine prochaine les prochains séminaires du 24 novembre et du début de décembre. Je signale aussi que les notes de cours sur le web peuvent être retrouvées à partir de... En allant sur le site de l'École normale supérieure, en prenant recherche, département physique et enseignement. Il y a maintenant un lien qui permet de retrouver le site où les notes de cours sont données à partir de l'École normale supérieure, du département physique, de recherche et enseignement. Bien, alors, dans les dernières séances, j'ai étudié très en détail le problème des collisions froides entre atomes et j'ai introduit des notions essentielles pour comprendre ces phénomènes qui sont la longueur de diffusion et la portée effective. Aujourd'hui, j'aborde un nouveau sujet, avant d'aborder l'équation de Gross-Pitaïevski, ce qui sera fait la semaine prochaine, j'aborde un problème qui est un peu délicat, qui est le problème du pseudo-potentiel. En général, dans les séminaires sur la condensation de Bose-Einstein, ce problème est réglé en une ligne sur le premier transparent. Et en fait, il est difficile, il est assez subtil, et il m'a semblé important de le discuter en détail, parce que ce n'est pas facile à trouver dans la littérature des explications simples et claires. Donc, je voudrais d'abord expliquer un peu quel est le problème, parce que on peut se demander, a priori, pourquoi se lancer dans ce travail. En général, le potentiel d'interaction entre atomes qui intervient dans les problèmes de condensation de Bose-Einstein, c'est un potentiel de Van der Waals avec une force répulsive, un potentiel très répulsif à courte distance et une attraction en 1 sur R6 à grande distance. Il n'est pas commode à manipuler mathématiquement et il ne conduit pas en général, c'est difficile d'en déduire des expressions analytiques simples. D'où l'idée de se dire la chose suivante, est-ce qu'on ne peut pas qu'on fait une théorie pour essayer de retrouver la forme du condensat, les vibrations propres du condensat, est-ce qu'on ne peut pas remplacer ce potentiel réel par un pseudo-potentiel, beaucoup plus simple à manipuler mathématiquement, et qui donne au moins une partie importante des mêmes résultats que le vrai potentiel. Donc c'est un petit peu un but opératoire, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus commode à manipuler, qui conduit à des expressions analytiques, mais qui contiennent la même physique que le vrai potentiel. Donc, il faut préciser qu'est-ce qu'on attend, qu'attend-on de ce pseudo-potentiel. D'abord, évidemment, comme le point essentiel, c'est qu'il soit simple, simplicité mathématique. Ça, c'est la motivation essentielle. Et ensuite, si vous voulez, il faut bien sûr qu'il corresponde au problème physique, c'est-à-dire qu'il donne la même amplitude de diffusion. S'il donne la même amplitude de diffusion, il donnera le même comportement asymptotique des fonctions d'onde à grande distance. Alors certes, il ne reproduira pas ce qui se passe à courte distance, parce que ce qui se passe à courte distance n'est pas le même pour les deux potentiels. Mais on peut espérer que si le milieu est dilué, c'est-à-dire si les atomes passent la plupart du temps sont la plupart du temps loin les uns des autres, on pourra espérer que les erreurs commises sur une description pas correcte de ce qui se passe à courte distance seront négligeables. D'accord ? Donc on veut qu'il ait le même comportement asymptotique, c'est-à-dire qu'il ait la même amplitude de diffusion. Que j'avais appelé f de k, ou tout au moins la même longueur de diffusion. Puisque vous savez que si je connais la longueur de diffusion, et si je connais la portée effective, à cela je connais l'amplitude de diffusion. Donc, au moins, exigeant qu'il ait la même longueur de diffusion. Ou tout au moins, donc, même a. Et ensuite, ce serait agréable qu'on puisse le traiter par borne. Parce que ça permet de faire des calculs à l'ordre le plus bas, et si on peut le traiter par borne, ça veut dire que les corrélations à courte distance ne sont pas trop importantes, et que c'est important pour les théories de champs moyens. Ça permettra facilement de faire des théories de champs moyens. Bon, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être deux tentatives pour répondre à cette question. Une première tentative extrêmement pédestre. On va prendre le potentiel le plus simple qu'on puisse imaginer, localisé, qui est un potentiel en fonction delta. De manière pas rationnelle. On prend un potentiel en fonction delta, et on essaye d'ajuster le coefficient, et puis on essaye de voir si à partir de ce potentiel en fonction delta, on a les mêmes corrections en énergie que le vrai potentiel. On verra que ça ne marche pas. À ce moment-là, il faudra reprendre un raisonnement plus rationnel, essayer de dire qu'est-ce qu'on veut exactement mathématiquement imposer à V pseudo, au pseudo-potentiel, et là, on ira un peu plus loin, on introduira ce qui est utilisé couramment dans la théorie comme potentiel d'interaction pseudo entre atomes. Donc, je commence, si vous voulez bien, par potentiel en fonction delta. Si vous voulez, l'argument, c'est que les atomes sont la plupart du temps très éloignés les uns des autres. Le potentiel, la portée du potentiel est beaucoup plus petite que la distance moyenne entre atomes, et que je peux considérer finalement que le potentiel est localisé en un cœur très très localisé. Donc je vais poser V de R, V delta de R, pour le distinguer du vrai potentiel V de R, V delta de R égale G delta de R. Bon, j'ai dit tout à l'heure que j'aimerais bien que borne soit applicable. Admettons un moment, on verra que ce n'est pas vrai, hein, mais admettons un moment, on ne sait pas encore, admettons un moment qu'on puisse appliquer l'approximation de borne à V delta. Si l'approximation de borne était applicable à V delta, je saurais calculer l'amplitude de diffusion. J'en ai fait démontrer dans les cours précédents qu'à basse énergie, la valeur de la longueur de diffusion à l'approximation de borne, c'est M sur 4 pi h bar 2, intégrale sur d3r de v de r. Donc, si borne est applicable, voilà l'expression de a de borne, l'amplitude de diffusion, la longueur de diffusion en fonction de v de r. Si donc je suppose que v de r est traitable par borne, ce que je vérifierai après, ou, si c'est vrai ou non, à ce moment-là, j'en dirai durée que a devrait être égal à m gm sur 4 pi h bar 2. Puisque intégrale de delta de r c'est 1, et j'aurai donc m sur 4 pi h bar 2 intégrale de v de r, c'est-à-dire g, j'aurai donc a égale gm sur 4 pi h bar 2, d'où le choix, le vrai potentiel à une longueur de diffusion petit a, celui-là je suppose que je la connais, ça caractérise vraiment le vrai potentiel. À ce moment-là, je prends ce potentiel-là, V delta, avec G égale 4 pi h bar 2 sur M, A. Voilà. Alors maintenant, à ce niveau-là, je ne sais pas du tout si ce que j'ai fait ici a un sens ou non. Je ne sais pas si en prenant ce potentiel modèle, je vais retrouver toutes les corrections en énergie dans le spectre d'énergie positive de la particule. Il faut que je le vérifie. Il faut que je vérifie à l'ordre 1 en G, à l'ordre 2 en G, et ainsi de suite. D'accord ? Et on va donc faire maintenant cette vérification. Et comme je l'ai fait déjà dans un cours antérieur, quand on étudie le spectre continu d'énergie positive, c'est pas commode de travailler avec un spectre continu, il est beaucoup plus commode de travailler avec un spectre discret. Donc je vais supposer que la particule est enfermée dans une boîte sphérique de rayon R, auquel cas j'ai des niveaux discrets. Je vais calculer les fonctions propres non perturbées en absence de potentiel. Je vais calculer les énergies non perturbées en absence de potentiel. Puis je vais mettre d'abord le vrai potentiel, voir comment c'est déplacé. Puis je vais mettre le potentiel en V delta et je vais voir si les calculs avec V delta me redonnent les mêmes corrections d'énergie, les mêmes corrections en fonction d'onde que le vrai potentiel. Voilà donc la démarche que je vais suivre pour voir si le choix que je viens de faire a un sens ou non. Donc je vais prendre une particule dans une boîte sphérique. De rayon R, très grand. Et bien sûr, j'ai commencé à étudier les fonctions propres et valeurs propres de H, d'abord avec V égale 0, le vrai V, hein, la particule libre. Bon, ça, je l'ai déjà fait, je l'écris, je le remontre simplement. Les fonctions propres sont évidemment de la forme U sur R, où U est la fonction radiale, et U c'est une sinusoïde qui s'annule forcément en nul, en zéro. Bon, je crois que ça s'annule en 0 et ça s'annule en R. L'état fondamental, c'est cette sinusoïde pour UN. Le premier état excité, il y a un nœud. Le deuxième état excité, il y a deux nœuds, et ainsi de suite. De manière générale, les fonctions propres sont de la forme Cn, sinus Nπ sur R, où N égale 1, 2, 3, 4, etc. La fonction d'onde totale, c'est 1 sur R, UN0 de R. Et la condition, la constante Cn est déterminée par la normalisation, somme de D3R, psi n0 carré de R égale 1, c'est-à-dire Cn carré, somme de 0 à R de DR 4 pi R2, 1 sur R2 sinus carré égale 1, les R s'en vont, les R2 s'en vont, et j'obtiens immédiatement Cn carré 2 pi R égale 1, c'est-à-dire UN0 égale 1 sur racine de 2 pi R, sinus NPi petit r sur grand R. Les énergies non perturbées, c'est, ça dépend du vecteur d'onde de la particule ici. C'est donc H par 2, pi 2, N2, sur 2 masses réduites R2. Je rappelle que la masse, la particule est masse réduite qui se déplace en V de R, mais la masse réduite est N sur 2. Donc c'est H par 2, pi 2, sur MR2, N2. On obtient les particules, les niveaux d'énergie dans un puits infini. Enfin, pour tout à l'heure, il est amusant de calculer quelle est la densité de probabilité de présence de la particule à l'origine, puisque tout à l'heure qu'on prendra un potentiel en delta R, c'est ça qui va être important, c'est la densité de probabilité de la particule à l'origine. Que vaut psi n de 0 au carré? Alors, il faut que je revienne à psi n de R qui est ici. Quand R tend vers 0, un de R tend vers, le sinus tend vers npr sur grand R, le petit r qui est ici se simplifie avec le petit r qui est ici, donc psi, le psi total, tend vers quelque chose qui n'est pas nul quand R tend vers 0, qui vaut petit n pi sur R, que multiplie la constante de normalisation, au carré, ça va me donner 1 sur 2 pi r, n de pi 2 sur R2, c'est-à-dire pi 2 sur 2 pi r3, n2. D'accord ? Donc je garde ces résultats. Voilà donc pour V égale 0, qui est élémentaire. Et que vaut maintenant, que valent maintenant les fonctions propres et valeurs propres pour V différentes de 0 ? Je vais peut-être réécrire ici parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Je viens de trouver donc psi n0 égale 1 sur racine de 2 pi r, 1 sur R, sinus, N, pi, petit R sur grand R, et N0, égale H par 2, pi 2, N2, sur MR2. Que valent maintenant les fonctions propres et les valeurs propres pour V différentes de 0 dans le vrai potentiel? Dans le vrai potentiel, je sais je l'ai fait à plusieurs reprises la dernière fois, que la vraie fonction radiale, UN de R, est définie ici en violet, elle s'annule à l'origine, elle oscille plus ou moins dans le vide potentiel d'interaction des deux atomes, et pour R suffisamment grand, ça redevient une sinusoïde, qui s'annule en R petit r égale grand R. Et je vous ai montré tout l'intérêt qu'il y avait à considérer ce qu'on appelait la fonction prolongée Pn, qui est en rouge ici, qui coïncide avec la fonction propre réelle radiale pour R grand, et qui reste, qui garde la même forme d'une sinusoïde, quel que soit R. Donc la fonction propre prolongée, ça va être la fonction rouge ici, qui est une sinus. Alors, c'est un sinus qui va s'annuler en R, et vous rappelez que cette fonction propre prolongée coupe l'axe des R en un point dont l'abscisse est delta 0 de K sur K, qui pour K suffisamment petit est très voisin de A. Je vais négliger les différences entre delta 0 de K sur K et A. Donc cette sinusoïde va couper l'axe des R en R égale A, de sorte que son expression, c'est sinus Nπ petit r moins A pour s'annuler en R égale grand R et divisé par grand R moins A. Si je prends cette sinusoïde, pour petit r égale grand R, j'ai sinus Nπ c'est égal à 0, et pour R égale A, c'est aussi égal à 0, sinus Nπ 0. Donc cette sinusoïde-là, c'est cette forme-là, et C'n est un coefficient de normalisation. Si A est petit, et si je me limite à l'ordre 1 inclus en A, au point de vue normalisation, la contribution à la norme de cette partie est négligeable, elle est en A2, et pour avoir la norme, il suffit que je remplace le 1 sur racine de 2 pi r de tout à l'heure par 1 sur racine de 2 pi r moins a. Donc, en présence d'interaction, si j'introduis la notion de longueur de diffusion, la fonction radiale Vn de r, ça va être à l'ordre 1 inclus en a, 1 sur racine de 2 pi r moins a, sinus Nπ petit r moins a, sur grand R moins A. Quant aux énergies, elles valent, le nouveau vecteur d'onde est plus petit maintenant, il est 1 sur R moins A, et la nouvelle énergie s'obtient perturbée, s'obtient en remplaçant dans l'expression de l'énergie non perturbée 1 sur R2 par 1 sur R moins A carré. Et d'ailleurs, c'est comme ceci que je vous avais dit que suivant que A était positif, 1 sur R moins A carré est plus grand que 1 sur R2, et le déplacement d'énergie vers le haut, tout se passe comme si le potentiel était attractif pour la partie du spectre d'énergie positive. Si A est négatif, au contraire, les sinusoïdes ont une longueur d'onde plus grande, 1 sur R moins A carré est plus petit que 1 sur R2, et le déplacement d'énergie vers le bas, tout se passe comme si le potentiel était attractif. Donc le caractère apparemment attractif ou répulsif du potentiel pour la partie d'énergie positive ne dépend pas du fait que j'ai une barrière ou un puits, il dépend uniquement du signe de A. D'accord ? Alors maintenant, si je me place dans un point de vue de perturbation, et si je fais un développement de 1 sur R moins A carré, que j'écris sous cette forme, en puissance de A sur R, je m'aperçois qu'à l'ordre 0, je retrouve l'énergie non perturbée, et puis j'ai un terme d'ordre 1 qui va être en 2 A sur R, et un terme d'ordre 2 qui va être en 3 A2 sur R2. Je les laisse ici parce que c'est ça qui va me permettre maintenant, ça c'est un résultat exact, et c'est ça qui va me permettre de voir si B delta est bon ou non. Donc, je mets ici les résultats, delta et N1, la correction premier ordre en A, c'est égal à EN0 que multiplie 2 A sur R, et delta EN2, c'est EN0 que multiplie 3 A2 sur R2. Et je pourrais bien sûr aller plus loin si je le désirais. Alors maintenant que on a analysé ce qui se passe sur le vrai potentiel, revenons à V delta et essayons maintenant de voir quel est l'effet de V delta au premier ordre. Alors, on sait très bien, pour la théorie des perturbations de premier ordre, alors, je mettrai un tilde A aux corrections de V delta, qui ne sont pas les mêmes que les corrections du vrai potentiel qui n'ont pas de tilde A. Hein. Donc, la correction au premier ordre en V delta, delta et N1, c'est l'élément diagonal de V delta sur la base non perturbée, psi N0, psi N0. Or, B delta, c'est G delta de R, donc c'est G intégrale sur T3R de psi N0 de R au carré, delta de R. Delta de R fait apparaître 0 ici, donc c'est G psi N de 0 au carré. J'ai calculé tout à l'heure psi N0 au carré, et j'ai trouvé que c'est pi 2 sur 2 pi r 3 n 2, donc c'est g pi 2 n 2 sur 2 pi r 3. Je remplace g par sa valeur là-bas, 4 pi h bar 2 sur m a, 4 pi h bar 2 sur m a pi 2 n 2 sur 2 pi r 3, et ça me donne pi 2 h bar 2 n 2 sur m r 2, qui n'est rien d'autre que n 0, que multiplie 2 a sur r, et je retrouve exactement le terme delta n. Donc, la correction au premier ordre en v delta est la même que la correction au premier ordre du vrai potentiel. C'est magnifique, ça veut dire que ça marche. En utilisant ce potentiel que j'ai pifométré, que j'ai parachuté, je retrouve toutes les corrections au premier ordre correctes. Donc, V delta au premier ordre donne les bonnes corrections à toutes les énergies positives de la particule. Alors, est-ce que ça marche aussi bien aux autres ordres? Allons-y. Que vaut delta EN tilde 2? La formule habituelle des perturbations du second ordre, c'est la somme sur tous les états autres que n de l'élément de matrice de V delta au carré entre psi n0 et psi q0 divisé par la différence des énergies. Or, psi q0 V delta psi n0, c'est somme G, somme de D3R de psi q0 étoile psi n0, c'est donc G2, G sur 2 pi R, pi 2 sur R de Qn, j'élève ça au carré, je divise par EN0 moins EQ0 qui va faire N2 moins Q2, un coefficient près, et en mettant tous les coefficients, les regroupant, j'obtiens G2M sur H bar de R4, un coefficient, somme sur Q différent de N, de Q de N2, c'est le carré de l'élément de matrice, là, divisé par N2 moins Q2, c'est la différence des énergies qui varie en N2 et Q2. Et il faut que je somme sur Q. Et vous voyez que pour les grands Q, ça s'attend comme ça tend vers moins 1, et c'est une série qui est divergente. Donc, la correction de V delta au deuxième ordre est infinie. Donc, catastrophe, on ne peut pas traiter V delta au deuxième ordre. L'approximation de Born n'est pas applicable à V delta.
Donc, le miracle ne se produit pas, ne se produit pas. Alors, on pourrait dire, en fait, c'est parce que j'ai pris une fonction delta. Si je prenais une fonction delta de largeur finie, c'est-à-dire une fonction de hauteur très grande ou de largeur très petite, telle que le produit de la hauteur par la largeur soit égal à 1, il n'y aurait pas de problème, alors aussi en ça, prenons une fonction de la fin finie, qui vaut 0 pour R supérieur à epsilon, et qui vaut 3 sur 4 pi epsilon q pour R plus petit que epsilon, de manière que l'intégrale de ceci sur la sphère de rayon epsilon, ça donne 4 pi sur 3 epsilon q plus multiplié ça, ça donne 1. Donc delta epsilon de R, c'est une fonction qui est localisée sur un volume le rayon epsilon, qui est constant dans ce volume, et dont l'intégrale est égale à 1. Alors, G delta epsilon de R, pour la fonction radiale, c'est une fonction créneau, comme ça une barrière, sur une hauteur, V0, une largeur epsilon, et la hauteur, c'est V0 égale 3 pi sur 4 pi epsilon q, c'est, je multiplie ça par G, quand par la G, par son expression, c'est 3 mètres par 2 sur epsilon q A. Et si je reviens au cours précédent, j'avais appelé la hauteur de ces barrières de potentiel, H bar 2 cadet rond de sur N, le cadet rond correspondant, ben, j'ai égal à racine de 3A sur epsilon Q. Donc, j'ai une barrière de largeur epsilon et de hauteur en unité cadet rond qui est égale à racine de 3A sur 2 epsilon Q. Le paramètre est important, parce que la semaine dernière, rappeler qu'est-ce que ça fait cadet rond B, cadet rond la hauteur B de la largeur, ici c'est cadet rond epsilon, qui est racine de 3 là sur epsilon, et quand epsilon tombe à 0, ça tombe à l'infini. Donc ici, on porte au cours précédent, c'est une barrière de potentiel de largeur B dans la limite qu'a 0B dans l'infini, et à ce moment-là, on sait que la longueur de diffusion tend vers la largeur de la partielle, donc la longueur de diffusion d'un tel potentiel tend vers epsilon, lequel lui-même tend vers 0, et j'ai abouti donc au résultat important qu'une fonction delta de largeur finie traité pour un problème de diffusion, ça a une longueur de diffusion nulle. C'est-à-dire, ça a une section efficace nulle. L'amplitude de diffusion proportionnelle à A, à partir d'un chiffre, donc ça a une section efficace nulle. Donc, vous voyez que le potentiel V-delta que j'essaie d'utiliser là est hautement pathologique. Traité à l'ordre 1, il donne des bons résultats. Traité à l'ordre 2 ou infini, à ce moment-là, il donne n'importe quoi. Il est infini à l'ordre 2, et puis quand je fais tous les ordres, quand je calcule à tous les ordres, je trouve zéro. Donc, on faire plus attention. Et avant de passer donc, à reprendre le problème de manière plus rationnelle, plus systématique, je voudrais quand même, et ça sera utile pour la suite, regarder ce que donne V-delta sur le fonctionnement à l'ordre 1. V-delta marche à l'ordre 1 sur les énergies. Qu'est-ce qu'il marche aussi à l'ordre 1 sur le fonctionnement? Je vais vous poser la question. Donc, d'abord le problème maintenant. Qu'est-ce que V-delta, pourquoi il y a une rupture qui est à l'accepter sur T, sur les énergies? Et alors, je le prends sur les fonctionnements. Bien. Alors, on sait bien que quand on traite une perturbation au premier ordre, les fonctions non perturbées sont contaminées par la perturbation, et Cn0 devient Cn0 plus une superposition de tous les autres états, Si plus 0, plus différent de L, avec un coefficient de contamination qui est l'élément d'artiste de la perturbation entre l'état que j'ai étudié et l'état contaminant, divisé par la différence d'énergie entre l'état auquel je m'intéresse et l'état contaminant. Ça, c'est la formule bien connue de la théorie des perturbations. Que je peux écrire comme si c'est 1 sur R, U, 1 sur R, UL0, du sigma plus différent de L, le UQR, si plus 0, plus delta, c'est 1 0 sur L0 moins plus 0. La question que je me pose maintenant, est-ce que ce développement-là, est-ce que ça coïncide, est-ce que la partie qui est en parenthèse ici, qui est 1 sur R là, une position de 1 sur R, est-ce que ça coïncide avec VL de R, qui est la fameuse fonction rouge ici, que j'aimerais bien reproduire, c'est cette fonction que j'aimerais bien reproduire. Est-ce que ça coïncide avec VL de R, alors on peut inclure là. Alors, regardons un petit peu cette expression qui est retranchée ici, et oublions pour un moment que R varie entre 0 et 0. Supposons que maintenant R est une variable formelle qui peut aller de moins infini à plus infini. Après tout, j'ai le droit de m'intéresser à la structure mathématique de cette somme. Les U et 0 de R, les U plus 0 de R sont des sinus IPR sur grand R, B de l'entier. Donc j'ai une superposition de sinus. Les sinus sont des fonctions impaires. Donc, cette fonction-là, considérée comme une fonction de R, R est rond, est une fonction impaire en R. Maintenant, les sinus phi, P, R sur grand R, que les sinus de phi, P, grand plus hyper sur deux grand R, c'est des fonctions périodiques de période de R. Donc, le profil que j'ai là, c'est une fonction impaire, périodique en R, de période de R. Et, son développement en sinus, ça rappelle un développement sur les Fourier. Donc je peux vous poser la question, est-ce que cette fonction, c'est le développement sur les Fourier de VR? Alors attention, pour voir aller un peu plus loin, VR, c'est une fonction type que pour l'instant, elle est considérée comme 0 et grand R. Voilà la fonction VR que j'aimerais bien reproduire. Elle est définie entre 0 et grand R. Je l'étends à toutes les valeurs de R, d'abord en prenant sa partie impaire, en la prolongeant par la symétrique par rapport à R, j'obtiens donc la fonction rouge ici et verte là, en parenthèse, il y a une discontinuité ici, et puis je prends ce motif entre moins R et plus R, et je le déplace de 2R, et j'en fais une fonction périodique impaire. Donc à partir de Vn de R, en la prolongeant, en prenant sa partie impaire, et en la prolongeant de multiples de R, je construis une fonction périodique de période de R et LVR. J'appelle cette fonction prolongée Vn tilde de R. Et la question que je me pose, c'est est-ce que, en multipliant le développement premier ordre en Vδ par R de façon en V sur R alors que les sinus, est-ce que ce développement sinus ici, sinus IP, IP petit R grand R, est-ce que c'est le développement sélectionnier que la fonction périodique a fait? La question est bien posée. On peut Bien sûr, on a apporté une réponse très simple, et je dis la procédure sans salaire, et je dis de prendre cette fonction-là, pour que dire, et dans la le développement est l'obligation du développement est fourni. Alors, c'est pour ça. Cette fonction périodique inverse que j'ai dessinée ici, je peux écrire somme de Q de 1 à l'infini de gamma Q sinus Q phi V Q phi R sur l'antenne, et les gamma Q c'est l'intégrale sur l'intérieur de manière arbitraire de la fonction normalisée ici, 1 sur l'antenne R, 1 sur phi, petit R sur l'antenne, R sur l'antenne, et comme bien l'utilisateur est inverse, c'est deux fois l'intégrale de 0 à l'antenne, de ceci, je vous fais faire des calculs, on connaît le truc sur la thématique de Vn de R, qui est ici, on calcule alors de plus bas en petit a, et ce calcul, je ne vous pas de difficulté, dans le résultat suivant, gamma r égale 1, gamma pour plus du temps de l'air, égale si q0 v delta cl0 sur l0 moins q0. Donc la réponse est oui, la fonction que j'ai dessinée ici, cette fonction-là, son développement électronique, c'est le développement de perturbation, c'est ce développement de perturbation qui est dû par R. Donc, V delta va rester en premier ordre, non seulement pour les énergies, mais aussi pour le fonctionnement. Mais attention, ici, une petite subtilité sur laquelle j'insiste, parce que c'est elle qui va résoudre les difficultés de rencontre pour utiliser le pseudo-potentiel que j'ai produit après, c'est que c'est bien connu de tous les acousticiens, de tous les logiciens, que quand on fait le déploiement sérieux fournier d'une fonction qui est discontinuée, et une qualité, elle est discontinuée, quand c'est prolongé V de R, V de R, comme elle ne coupe pas l'axe de R égale 0 en un point 0, mais en un point qui n'est pas nul, quand je la prends la partie inverse, c'est une discontinuité, et je sais très bien, alors il y a une autre importance, c'est que, à cause de la discontinuité de R égale 0 en R égale 0, le déploiement sérieux fournier de V de R, c'est là, ne converge pas uniformément vers Vn tilde de R. Quand on augmente le nombre de termes de la série Fourier. Si vous voulez, j'ai dessiné ici, agrandi un petit peu la région où il y a la discontinuité en R0, j'ai dessiné en rouge Vn tilde de R, et c'est cette fonction-là, hein. C'est discontinu à ce point, j'ai dessiné un rond ici, et j'ai dessiné en violet la série Fourier arrêtée après un certain nombre de termes. D'accord ? Et la série Fourier qui est une superposition de sinus qui s'annule en R égale 0, s'annule forcément, quand je prends un non-fini de termes, elle s'annule forcément en R égale 0. Et si je m'arrête à un ordre suffisamment élevé, elle ne peut pas reproduire les fréquences spatiales trop petites. Donc, le déploiement de série Fourier va présenter des oscillations ici. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs, c'est bien connu en la physique et en musique. Si je me place en un point R différent de 0, et si je prends le nombre de termes de la série Fourier, je vais tendre la fonction violette, va tendre vers la fonction rouge. Mais elle ne tendra pas uniformément partout si je prends le point, parce que là, elle ne va pas encore atteindre la limite. Donc j'ai un problème de développement en fonction de changement perturbé qui n'est pas uniformément convergent. Et à ce moment-là, quand je fais agir des opérateurs dessus, il y a des questions d'ordre qui sont importantes. Suivant que le fait d'avoir la somme et fait agir un opérateur, ou que je fais agir un opérateur sur chaque terme de la somme que je somme après, je peux obtenir des résultats différents. Et ça explique toute une série de paradoxes qu'on trouve avec le pseudo-potentiel que je vais aborder maintenant. En particulier, j'insiste sur le fait que la pente de la fonction violette en R égale 0 est infinie, mais devient de plus en plus élevée quand on augmente le nombre de termes, alors que la pente de la fonction rouge, elle est parfaitement définie quand R tend vers 0 à 3, ou quand R tend vers 0 à gauche, et la limite à droite et à gauche sont les mêmes. Donc la dérivée de la fonction Vn tilde n'a pas de pathologie en R égale 0, la dérivée de la fonction rouge, de la fonction de R, a une pathologie et son infinie. Donc, en résumé, donc, V delta, tant que le juste est premier ordre, ça marche pour l'énergie, ça marche pour les fonctions non à part ce problème de convergence uniforme, dès que V delta est au premier ordre, ça devient sûr. D'accord ? Donc on va reprendre dans le problème de manière un peu plus intelligente, un peu plus systématique. Et d'abord la partie 3, hein, qui est le pseudo-potentiel. Et alors maintenant, on va essayer de faire de manière moins légère, on va essayer de comprendre un peu plus profondément ce qu'on veut faire, et comment choisir les pseudos. Je vais l'appeler des pseudos. Hein. Pour le différencier de 2024. Si vous voulez, la fonction qui joue un rôle essentiel dans ce problème, c'est DLVR. La fonction c'est la fonction rouge qui est ici. C'est DLVR. La fonction de l'ordre total, c'est VL vers R. Donc ce que je vous demanderai, c'est que si je reviens maintenant à l'espace libre, et non pas même dans une boîte à l'espace libre, vous voulez avoir un indice dit très N, d'avoir un indice continuitat, K étant le vecteur d'onde de la particule loin de l'origine. Donc ce que je vous demanderai, c'est que 1 sur R, V calvaire, donc V calvaire est la fonction volontée, c'est une sinusoïde de sinus carré plus delta 0 de K loin, et puis. Je voudrais que cette fonction soit fonction propre de voilà un genre de sur n delta, n n'étant pas de n parce que c'est deux fois la masse réduite de la masse réduite de n, plus les pseudo. La question c'est la suivante, est-ce que je peux trouver un opérateur des pseudo tel que ceci soit fonction propre de cette hamiltonienne? Maintenant, la question est posée de manière beaucoup plus précise. Alors, le point important, c'est que VK ne s'annule plus à l'origine. VK de 0 est plus nul. Et à ce moment-là, je peux tout de suite dire que le Laplacien qui apparaît ici, agissant sur 1 sur R, VK de R, qui est près de l'origine de VK de 0, il est allé. Donc le Laplacien agissant sur 1 sur R, quand j'ai fait ce que ça donne, le Laplacien de 1 sur R, c'est moins 4 pi delta. Donc ça, ça va montrer moins 4 pi delta de R, VK de 0. Et puis, j'aurai d'autres termes, parce que VK de R, je peux laisser sur la forme VK de 0, plus VK de R moins VK de 0, qui lui est régulier à l'origine, qui s'annule à l'origine, et lui, il va avoir des dérivés secondes, des secondes. On pourrait d'autres termes. Mais le fait que VK de R ne s'annule pas à l'origine va me donner ceci. Et dans l'équation de la loi propre, je vais me retrouver avec ce terme sur les bras. Donc il disparaît. Donc ça veut dire que il doit forcément y avoir une fonction delta de R dans les pseudos pour que ce terme disparaisse. Et alors maintenant, je peux me dire la chose suivante, ça serait très agréable si je n'apparais dans des pseudos agissant sur VK de R sur R, une fonction delta de R, mais multiplié cette fois-ci non pas par VK de 0, mais par V'K de 0. Parce que l'annulation des coefficients de delta de R, la partie de l'onde de delta, c'est ceci, et la partie qui vient de V pseudo qui contiendrait un delta de R, V'K de 0, l'annulation des coefficients m'introduirait une contrainte sur V'K sur VK à l'origine, c'est-à-dire la dérivée logarithmique à l'origine. Et si je reviens à cette figure, la dérivée logarithmique de VK à l'origine, ici c'est pratiquement le droit, parce que A est une fille devant ce qui est un ceci, ça nous donne la diffusion. Donc, si je fais ça, j'aurais d'emblée dans l'équation même quelque chose qui reproduit le fait que la dérivée logarithmique à l'origine revient à l'amplitude de diffusion. Voilà l'idée que j'essaie de suivre. D'accord ? Donc, j'essaie de trouver des pseudos, de manière que 1 sur R, VK de R, soit fonction propre de ceci. Je remarque que delta est dans les fonctions, que la place est dans les fonctions delta. Donc, il faut que le V pseudo soit dans les fonctions delta. Et ce serait génial s'il me donnait une fonction delta qui me suffit V'K de 0, parce qu'à ce moment-là, l'annulation des coefficients de delta me donnerait une condition sur la dérivée logarithmique. D'accord ? Et je pourrais citer V'K de 0 sur V'K de 0 égale moins 1 sur 1. Bon, et bien maintenant que ce programme peut être rempli, donc je passe maintenant à la détermination de le pseudo. Eh bien, je prétends que si je veux que V pseudo agissant sur VK sur S, mais dans une fonction delta de R, comme dit la dérivée de VK, à ce moment-là, je n'ai pas fait mon choix. Il faut que V pseudo soit égal à G delta de R, que divise D sur VR, et je veux que ceci agissant sur VK sur R dans un décrit delta de R, comme je veux que V pseudo sur V, agissant sur delta de R dans un décrit delta de R, que je le divise ici par R, pour faire disparaître VR qui existe. Donc, vous voyez que je suis naturellement tendu à appeler V pseudo égale G delta de R, G sur VR, de R. Si je fais ce choix, à ce moment-là, V pseudo agissant sur delta de R sur R me donne G delta de R, D sur VR, delta de R, c'est-à-dire G delta de R, D sur delta de R, et ceci. Ceci, c'est la même chose que G delta de R, V plus K de 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse pour G? À ce moment-là, je reparle de l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, si je veux que VK de R sur R soit fonction propre de cette tenière, j'ai donc moins 4 par 2 sur 2 R réduit delta VK de R sur R, plus V pseudo VK de R sur R égale. 1 par 2 K2 sur 2 L réduit delta sur 1 sur L. Je multiplie tout par 2 L réduit sur 1 par 2 qui est L sur 1 par 2, et par moins, ça fait donc la partielle des L sur L, moins GL sur 1 par 2 V pseudo V K2 sur L, moins K2 égale moins K2 V K2 sur L. Et maintenant, je vais faire plus de termes. Ce premier terme, j'écris V K2R égale V K0 plus V K2R moins V K0. Donc, la partielle de V K2 sur L, la partielle de méga 0 sur R, c'est moins 4 pi delta de R méga 0, plus cette fonction L, elle s'allume à l'origine. Donc je peux utiliser le fait qu'en coordonnées sphériques, le Laplacien sur une onde S, c'est 1 sur R, D2 sur VR, D2 sur L, et puis ça nous gère à méga 0. Donc ceci, c'est 1 sur R, D2 sur VR, D2 sur R, agissant sur méga de R sur R. D'accord? Donc le méga de R s'en va. Et j'obtiens 1 sur RP de mon KDL. Et finalement, je viens de voir, j'ai fait ce double état de R sur R d'après cette formule, c'est moins GL sur 1 par 2 delta 2 RP prime 4 0. Donc si je regroupe ce terme et celui-là, l'équation Schrödinger s'écrit maintenant. Moins 4 pi delta de R, V4 0, plus GL sur 4 pi L par 2, V4 0. Ce terme, c'est celui qui provient de la partielle. Ce terme, c'est celui qui provient de V pseudo. Plus 1 sur R, V seconde K, plus K2, V4 R. Ça fait la valeur propre. Que j'ai dépassé premièrement. Et ça, c'est le reste de la partielle qui agit sur V4 de R moins V4 de R moins V4 0 sur R, qui réduit en R égale 0. Et ceci doit être égal à 0. Alors, il faut d'abord annuler le coefficient de la fonction delta, ça c'est l'idée initiale de ce sujet. Donc, j'ai V'K de 0 sur V'K de 0 égale moins 4 pi L par 2 sur Kn. Il faut ensuite maintenant annuler ce terme-là, V seconde K de R plus K de V'K de R égale 0. Et j'ai l'impression qu'on a que si je pose, comme toujours, comme tout à l'heure, si je pose G égale 4 pi L par 2 sur Ma, si je fais ce choix, à ce moment-là, j'ai V'K de 0 sur V'K de 0 égale moins 1 sur A. C'est automatiquement contenu dans l'équation. Quant à la deuxième équation ici, sa solution c'est V'K de R égale C sinus KR plus delta 0 de K, ou delta 0 de K est le dépassage, à temps du sens. Quand je me rapproche de l'origine, cette fonction-là, sa dérivée logarithmique, quand je me rapproche de l'origine, c'est V'K de 0 sur V'K de 0 égale la dérivée de ceci divisée par la fonction 4 fois delta 0 de K. Et quand je me rapporte à ce que j'ai ici, j'obtiens la relation fondamentale, 460 delta 0 de k égale 1 sur a. Donc, j'ai trouvé une fonction forte solution de cette hamiltonienne, et j'ai trouvé le décalage delta 0 de k en fonction de petit a. Alors, si j'ai le décalage, j'ai l'amplitude de diffusion. Je reviens en arrière, je vous rappelle que dans le développement non partiel, si on se limite à l'onde f, l'amplitude de diffusion c'est f de k égale la puissance i delta 0 de k sin delta 0 de k sur k, c'est sin delta 0 de k sur k est déjà moins 10 delta 0 de k, et on est effectivement la puissance moins 10 x égale moins 10 x moins 10 x 10, c'est 1 sur k, potentiellement delta 0 de k moins 10. Pour V pseudo, je viens d'établir potentiellement delta 0 de k égale moins 1 sur a, je m'apporte là-dedans. Et je trouve que l'amplitude de diffusion pour le pseudo-potentiel qui est marqué ici, avec G égale 7 tiers par 2 sur R, A, l'amplitude de diffusion est donnée par cette formule. On va sur l'amplitude à A. Et si je reviens au cours précédent, dans le cas général, pour un potentiel V de R qu'elle prend, l'amplitude de diffusion peut être écrite sous la forme, au 4 au 4 ici, moins a sur 1 plus i k a plus moins 1 demi de r2 ré k2 a. Alors vous voyez maintenant, on peut donner une réponse précise. Si je prends mon vrai potentiel, si je prends sa longueur de diffusion a, si j'introduis ce pseudo-potentiel avec la valeur de v, je reproduis l'amplitude de diffusion du vrai potentiel à part que j'ai fait la consommation r égale 0. Donc, dans la mesure où je peux négliger la force effective, le pseudo-potentiel donne la même amplitude de diffusion que le vrai potentiel. Et ceci est démontré maintenant de manière rigoureuse. Qui plus est, si je regarde cette formule, et si je regarde sa structure en fonction de A, si K est petit de 1, f de k égale moins 1 sur 1 plus ik. Alors, cette expression résume un calcul exact sur le potentiel de Schrödinger et c'est de régler le pseudo. Si k est petit 1, on peut développer ceci en puissance de k et obtenir cette formule. Alors, en tant que tel, il y a des erreurs dans les notes que nous devons corriger, mais on peut donc s'adapter sur le développement. C'est moins k plus ik à 2 plus k à 3. Le développement de bord existe pour le pseudo potentiel et le terme dans le plus bas, c'est moins 1. Donc le pseudo-potentiel est traitable par bord. Bon, on peut considérer qu'on a fini notre discussion, mais je pense qu'il est très important de continuer encore un tout petit peu, parce qu'il est intéressant de refaire la même chose, du moins de commencer à faire la même chose que les deux tout à l'heure pour Bédelta, de recommencer à appliquer la théorie des perturbations avec pseudo. Et d'essayer de voir concrètement sur les. Ici, j'ai un calcul exact à tous les ordres. Il est intéressant de voir comment ça se passe en parenthèse. Parce que là, on se rend compte qu'il y a des difficultés et que quand on manipule le pseudo-potentiel, il faut faire attention et je vais essayer de discuter ce point un peu en détail. Donc, je vais aborder une partie ici. Donc je vais regarder maintenant quelques perturbatifs. Deux effets de vecteur 2. Et avant ça, je voudrais établir un résultat très important. Jusqu'ici, j'ai fait agir vecteur 2 sur une fonction V de R sur R, qui quand K tend vers 0 devient 1 sur R, qui est singulière à l'origine. Qu'est-ce qui se passe si je fais agir V de pseudo sur une fonction qui est gentille à l'origine, mais pas qui ne diverge pas. On dit, quelle est l'action de V de pseudo sur une fonction régulière à l'origine? l'esprit marketing. Si derrière c'est nul à l'origine, si ces dérivés sont tout à fait gentils, donc je ne dirais pas, si je vais agir des pseudos sur agissant sur psi de R, c'est G delta R, D sur DR, R psi de R, j'ai une dérivée d'un produit de terme, d'abord la dérivée de psi de R, c'est le multiplié delta de R, R, plus la dérivée de R, c'est 1, le multiplié de psi de R. Bon, si D sur DR et psi de R est on a une valeur finie qui reste en 0, je trouve le produit de delta de R par R, et comme R est nul pour R égale 0, ce site est égal à 0. Donc le premier terme s'en va. Et je m'aperçois que si psi de R est régulière en 0, V pseudo à distance sur psi de R me donne G delta de R psi de R, c'est la même chose que V delta. Autrement dit, sur les fonctions qu'ils ont eues à l'origine, ils reviennent au même d'utiliser V pseudo ou V delta. C'est uniquement quand la fonction devient singulière à l'origine qu'il faut utiliser V pseudo. D'accord ? Le V delta donnerait quelque chose d'infini, puisque V delta agissant sur la fonction 1 sur R va nous donner quelque chose qui n'est pas bien défini mathématiquement. Alors que dans ce cas-là, V pseudo agissant sur Vn de R sur R, si Vn de 0 n'est pas nul, ça va nous donner Vn prime de 0. D'accord ? Ça veut dire que V pseudo et V delta font les mêmes éléments de matrice en fonction régulière à l'origine. Alors là, du coup, je vais revenir au bon problème de la particule dans une boîte. Et utiliser les résultats que j'ai donné tout à l'heure pour régler ça, il y a une grande partie de ces résultats qui vont être immédiatement généralisables à des choses, puisque les pseudo et les ont les mêmes éléments de matrice entre fonctions non perturbées. Les fonctions non perturbées, c'est le sinus sur R sur R, qui sont tout à fait régulières à l'origine. Alors, je vous offre maintenant peut-être que pour tout de suite le résultat ici d'abord. Je vais avoir si L0 V pseudo si L0 comme si L0 est régulier à l'origine, ceci c'est égal à si L0 V delta si L0. Ça c'est bien passé tout à l'heure, delta et L ici. Ça fait delta, ça fait maintenant le délai de correction de pseudo delta L chapeau. Delta L dans là. Ça veut dire à ce moment-là que les deux hamiltoniennes, les deux perturbations ont la même, c'est le même équilibre comme erreur. Et quand j'ai démontré tout à l'heure que delta L2 était égal au V delta L2, je vérifie, sans avoir à refaire, le calcul que les pseudo me redonnent les bonnes énergies au premier rang. Alors, les fonctionnements de premier ordre, au premier rang, je peux écrire si n égale si n de 0 plus si n1, et comme si les éléments de matrice non diagonaux de V pseudo entre fonctions proprement perturbées qui sont aussi régulières l'une et l'autre à l'origine, cet élément de matrice est égal à celui de V delta, et par conséquent, le développement de psi n1 en v pseudo à l'ordre 1 coïncide avec le développement à l'ordre 1 en v delta. Et donc, je dis donc que le développement en fonction forte non perturbée de v pseudo multiplié par r, c'est aussi le développement en série Fourier de la fonction que j'avais donnée tout à l'heure. J'utilise directement et d'emblée les résultats établis tout à l'heure. Alors maintenant, on va aller au deuxième ordre. Et ce qu'on espère, c'est que la divergence que j'avais tout à l'heure sur v delta va disparaître donc pour v pseudo et pour v pseudo. Alors, on va chercher le delta L2 qui était ici, il va retrouver le bon delta L2. Donc, le correction correct. Alors, allons-y, étudions maintenant les effets de V pseudo aux éléments. Alors, ici, si vous retournez au cours de mécanique quantique, vous trouvez qu'il y a deux manières d'écrire le terme de perturbation du deuxième ordre. Le terme de perturbation du deuxième ordre, la première manière, pour commencer, c'est l'élément de matrice de la perturbation, ici V pseudo, entre psi L0, le bras, et pour lequel on prend la fonction perturbée au premier ordre. Ressommé.
Ça, c'est la première manière d'écrire. Deuxième manière d'écrire, si j'utilise le développement de perturbation de psi n1, je vais apparaître delta et n2 sous forme d'une somme de termes qui sont des éléments de matrice au carré en module divisé par des dénominateurs d'énergie. C'est ce que nous avons tous appris. Hein, c'est le développement de perturbation. Mais il faut bien voir qu'il y a ces deux manières d'écrire.
On va maintenant appliquer ces deux manières. On va voir la deuxième manière. Je sais que comme les fonctions fortement perturbées sont réunies à l'origine, les éléments non diagonaux de l'être pseudo et de delta sont les mêmes. Donc le terme du deuxième rang, écrit sous la forme violette, là, semblerait écrit, il est égal à celui qui est calculé pour delta et n2, les éléments de matrice de v delta au carré divisé par n0 moins q0, et je retombe sur la série n2 plus 2 sur n2 moins q2 soumis sur q, et ça diverge.
Donc, catastrophe, j'ai l'impression, bon, tout ce que j'ai fait là pour remplacer le delta par le pseudo, si je prends la formule des perturbations,
ça ne marche pas. Je reviens à l'expression. Alors, revenons à la première. Revenons à la première expression. Et à ce moment-là, si elle a, c'est la partie d'ordre 1, on a la fonction dont l'exacte que je connais, qui est Vn de R sur R, 1 sur R, racine, 1 sur racine de 2 pi R moins 1, sinus N pi R moins 1 sur R moins 1. Là, je l'ai sauvé la fois tout à l'heure. Je l'ai sauvé et je retiens cette fonction-là. Alors, je vais calculer Vn pseudo à distance sur psi N de R, et puis je vais prendre la partie d'ordre 1 de ça, puisque je connais psi N de R, je vais agir Vn pseudo dessus, et puis je prends la partie d'ordre 0, la partie d'ordre 1. Alors, allons-y. Vn delta. V pseudo à distance sur psi n de R, c'est G de R, G delta de R, V sur R de R vient de L. Alors, qu'est-ce que c'est que la dérivée de Vn de R? La dérivée de ceci, si dans R égale 0, après la fonction delta de R, donc je développe le sinus original de R égale 0, comme nt à moins 1 est ici dans le grand R moins 1, rappelez-vous que quand R moins 1 est infini, le sinus est proportionnel, c'est équivalent à petit nt R moins 1 sur R moins 1. Je le dérive par rapport à R, c'est nt sur R moins 1. Et donc, ceci, c'est g delta de R, 1 sur racine de 2 pi R moins 1, pi n sur R moins 1. C'est-à-dire g delta de R, pi n sur racine de 2 pi, 1 sur R moins 1, puissance 3 demi. Donc ça, c'est v pseudo à distance sur psi n de R. Bon, je développe maintenant en 1. J'ai écrit 1 sur R moins 1 à la puissance 3,5, c'est 1 sur R puissance 3,5, 1 moins 1 sur R à la puissance 3,5, je développe en 1 sur R. Et j'obtiens G delta de R, N pi sur racine de 2 pi, 1 sur R 3,5. Il n'y a pas de A, donc ça fait V pseudo à distance sur psi n de rond R. Plus G delta de R, N pi sur racine de 2 pi, 1 sur R 3,5, 3 sur 2 n. Et ça fait V pseudo psi n de R. Donc j'ai calculé, sans faire une somme de série, maintenant j'ai calculé directement V pseudo à distance sur psi n de R. Et maintenant je donne un sandwich ceci avec psi n 0. Ça revient à prendre un peu la fonction delta de R intégrée sur R, ça revient à prendre psi n 0, 0. Et du coup, j'ai n de pi 2 sur 2 pi, 1 sur R2, 3 n sur 2 sur R2. C'est-à-dire n de pi 2 par 2 sur R1, n R2, 3 n sur R2. Et si j'avais fait ça celui-là, vous verrez que c'est delta n2, le vrai, la vraie fonction des éléments de l'énergie. Donc on voit que delta n2 chapeau coïncide avec delta n2. Et donc on travaille directement sur la fonction propre d'ordre 1, sur la correction d'ordre 1, sans développer en fonction propre non perturbée, l'action de V pseudo et de théorie des perturbations me donne de bons résultats. Alors maintenant je peux essayer de donner l'explication de la différence entre V et ça. Si je prends psi n1 sous forme du développement perturbatif, sans ce plus différent de 0, cet élément massif de contamination du dit plus 0 sous mes circuits, c'est une somme infinie de termes qui ne converge pas uniformément vers psi n1, nous l'avons vu tout à l'heure. Et quand il y a des problèmes de convergence uniforme, l'action de l'exodo sur la limite de la somme
n'est pas égal à la limite de la somme des actions de Belchedo sur chacun des termes. Je ne peux pas intervertir la somme et l'action de Belchedo. Quand il n'y a pas convergence uniforme, il faut que je fasse attention. Donc, pour tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec Belchedo, si on rencontre des divergences à un moment ou à un autre, il faut se poser la question, est-ce que je n'ai pas interverti ces deux sommes? Il faut d'abord sommer les fonctions, une fois que j'ai obtenu le résultat final, faire un jour sur les deux. Et si vous voulez de manière plus physique, si vous revenez, peut-être de retrouver, si vous revenez sur le mot ou à l'image de tout à l'heure, voilà. Si vous prenez la somme, les termes, c'est-à-dire la courbe violette, vous voyez bien que l'action de Belchedo va nous donner quelque chose qui est proportionnel à la pente de la courbe violette à l'origine qui est infinie. Donc la divergence de la méthode numéro 2, utilisant la formule de delta 2 sous forme d'une somme de termes, va nous donner quelque chose qui est proportionnel à la pente de la fonction violette, qui est infinie. Alors que l'action de Belchedo sur la somme totale va nous donner la pente de la fonction rouge, pente qui ne présente aucune pathologie. Elle est la même que le temps vers la droite, personnellement vers la droite ou vers la gauche. Donc, vous voyez ici, on a répondu à une question très bien qui se passe, et j'ai tenu à vous présenter ça en détail parce que c'est redoutable dans les calculs à partir de la forme de Moreau du bord, quand vous voyez des articles, on trouve des infinités, puis on s'en verra en disant, c'est pas grave. En fait, les infinités sont liées à un manque de précaution dans l'utilisation de Belchedo. Je voudrais mentionner, pour terminer, Franck Lalleux aussi a beaucoup réfléchi à tous ces problèmes et j'ai, pour préparer ce cours, beaucoup discuté avec lui. Et il a eu un rapport un peu différent, mais qui est à la belle esprit. On définit normalement des pseudos assistant sur dk de r sur r, c'est gk, delta de r, dk de r. C'est-à-dire que gk, voilà, on comprend cette matière comme ça.
Souvent, on n'aime pas utiliser les fonctions delta, on aime utiliser des fonctions, comme tout à l'heure, delta epsilon, pour une largeur epsilon finie, une hauteur très grande, telle que l'intégrale soit égale à 1.
Alors, pour faire ça, on s'aperçoit que Belchedo, parce qu'on remplace delta VR par delta epsilon VL, et la définition de Belchedo, c'est plus Belchedo epsilon agissant sur delta VR égale GK delta epsilon VR, c'est plus VR. Si on prend ça, ça ne marche pas. Il faut prendre Belchedo, LDT filaire, agissant sur delta de R, on note GK, delta epsilon de R, la dérivée d'Eprimk de R, juste à l'extérieur de la barrière, d'Eprimk de epsilon.
Et là, si je reviens à la courbe bleue, à la courbe violette et à la courbe rouge, on comprend très bien. Il faut, si on prend une fonction delta de largeur finie, ce qui est important, c'est la dérivée juste à l'extérieur de la barrière. Si on prend une fonction delta de largeur finie, la fonction bk va s'annuler à l'origine, parce qu'on n'a plus la divergence en 1 sur r à l'origine. Mais si on prend la dérivée à l'intérieur de la barrière, on va tomber sur des divergences. Il faut prendre la dérivée juste à l'extérieur de la barrière, ce qui revient un petit peu à la discussion que j'ai faite tout à l'heure.
Donc, je vais retenir de tout ceci, à part ces complètes de manipulation, que dans les problèmes concrets qu'on va rencontrer dans la suite, on va la plupart du temps utiliser V delta, qui est plus simple d'utilisation, simplement quand on a des termes du deuxième ordre et quand on rencontre des divergences, il faut revenir en arrière, se dire attention, il faut utiliser le vrai pseudo, il faut faire attention aux problèmes de convergence uniforme, et en général on s'aperçoit que ces divergences sont factices. Elles sont liées à une mauvaise utilisation de V pseudo. Donc j'en ai fini avec cette longue introduction sur les collisions et V pseudo, et la semaine prochaine, j'aborderai donc l'équation de Gross-Pitaïsme.